Cannabis Circus, c'est maintenant.
Bienvenue au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Et oui, Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, bien sûr. Et donc, encore ce soir, une seule voix, en tout cas pendant un petit moment, puisqu'il est possible que mon camarade me rejoigne d'ici quelques minutes. Voilà, on espère, on va voir. Alors, ce soir, au menu, au sommaire, pardon. Le menu, c'est dans quelques jours, mais là, on va rester sur le sommaire, parce que j'ai rien à vous offrir à manger. Quoique, vers la fin, peut-être qu'on verra, on verra bien. Une petite surprise, voilà. Alors, donc, pour commencer, on va s'intéresser... alors, c'est pas une super nouvelle pour les vacanciers, les amoureux du ski... Puisqu'il semblerait que, après avoir tenté de repérer et d'interpeller des amateurs de cannabis sur les routes, eh bien, on va aller les pourchasser sur les pistes de ski. Voilà, on va aller s'intéresser un petit peu à ça. On va s'intéresser au dernier rapport de l'ONU-DC. J'espère qu'on va pas y passer trop de temps, puisque c'est quand même assez long. On va s'intéresser à une étude surtout, mais en fait c'est deux dans cet article sur la consommation de cannabis et les troubles cognitifs. Est-ce que la consommation entraîne des troubles cognitifs ou pas? On va voir ça. On va reparler de l'expérimentation du cannabis médical avec un article du Quotidien du Pharmacien très intéressant. Voilà, on ira jeter un petit coup d'œil à cet article. On va s'intéresser ensuite à l'Europe et à Stelios Kouloglou, qui est un député européen et qui lance l'alerte au Parlement européen parce que la Grèce, depuis 2018, a quand même adopté des dispositions favorisant la culture de cannabis à faible teneur en THC. Alors, à des fins plutôt bien-être ou thérapeutiques. Mais en fait, il se trouve que non, ça avance pas du tout en Grèce. Et Monsieur Kouloglou tire la sonnette d'alarme et dit, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des petits problèmes de santé, qui aimeraient bien pouvoir s'approvisionner légalement. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à s'approvisionner au marché noir et à rester des délinquants, quoi. Donc ça le fait pas. Hein. Donc voilà, et puis en même temps, bon, je pense qu'il parle pas que pour la Grèce non plus, parce que c'est pas qu'il n'y a pas qu'en Grèce qu'il y a ce problème. Un petit article ensuite qui résume un petit peu tout ce qui avance là. Alors ça se passe plutôt aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Suisse, aux Pays-Bas, bien sûr en Allemagne. Voilà, c'est un petit résumé là de ce qui avance. L'article d'après est à peu près du même tonneau, mais là c'est un article de France TV Info, pas mal du tout d'ailleurs. Qui fait un peu la même chose, quoi. Un petit tour de ce qui avance un peu partout dans le monde. Donc, ces deux articles sont un peu complémentaires. Ensuite, plutôt vers la fin, donc, on ira faire un petit tour en Argentine. En Argentine, vous savez, ce pays où un mec qui faisait campagne avec une tronçonneuse, qui a été élu d'ailleurs. Javier Milei, il s'appelle, voilà, qui d'ailleurs est très inquiète beaucoup de monde et à juste titre. Bon, il semblerait qu'il mette pas à exécution tout ce qu'il avait promis. Enfin, je sais pas si on peut dire promis, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas tout ce qu'il avait un peu déclaré pendant sa campagne. Voilà. Bon, bah, il se trouve que là-bas, ils sont plutôt partis pour légaliser, enfin, pour mettre en place un système d'approvisionnement au niveau du cannabis médical, avec 6 premières licences pour la production et la commercialisation de cannabis médical qui ont été accordées donc à 6 entreprises. On verra ça. Et pour terminer, un article très intéressant. On parle pas suffisamment de ces choses-là, peut-être, dans Cannabis Circus. Voilà, mais en tout cas, cet article peut intéresser un petit peu de monde. Comment conserver et évaluer la qualité de votre cannabis au fil du temps? Ben oui, ça peut arriver que certaines... possède parfois même sans le savoir des fleurs de chanvre ou peut-être une résine qui a pas mal de mois ou d'années. Et est-ce que c'est toujours consommable en fait ou pas? Et quelques petits conseils à la fin de cet article pour mieux conserver votre chanvre. Voilà le sommaire de cette émission. Et on va commencer tout de suite par partir à la montagne, faire un peu de ski, enfin pas moi en tout cas, mais peut-être que parmi vous, parmi nos auditeurs, auditrices, y a peut-être, je sais pas, des amateurs de ski, de surf, qui attendent patiemment, ou impatiemment plutôt, d'avoir quelques jours de congé là dans cette période hivernale pour aller dévaler les pentes et qui se disent ah oh, ça va être trop cool, en plus on va se fumer un petit joint au sommet de la pente avant de la dévaler. Faites gaffe parce que les autorités vont se mettre en chasse ils vont se faire aider par des équipes cynophiles, donc des équipes de policiers et de gendarmes avec des chiens renifleurs de vos poches pour essayer de voir si vous possédez donc avec vous quelques substances psychotropes illicites. Donc j'en profite pour vous rappeler que les chiens ne reniflent pas que du cannabis, mais après je les connais pas hein, personnellement, ces petites bêtes, mais certains chiens sont capables aussi de repérer la présence d'autres substances, comme des amphétamines, de la cocaïne, voilà. Donc faites attention, en tout cas ils vont être là pour surveiller. Vous risquez par exemple une amende forfaitaire délictuelle de 200 € et qui peut descendre à 150 € si elle est réglée dans les 15 jours. Dans cet article, il n'en parle pas, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait aussi des équipes qui soient là pour vous faire subir un test salivaire. C'est pas précisé dans l'article, mais ça ne m'étonnerait pas. À mon avis, c'est pas incompatible. Je vois pas pourquoi on n'emmènerait pas, enfin ces policiers et gendarmes n'emmèneraient pas dans leur valise des tests salivaires. Ils emmènent bien au bord des routes, ils peuvent très bien en emmener dans les stations de sport d'hiver. Je pense que c'est tout à fait envisageable, donc faites attention. Soyez prudentes et prudents. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est que si vous avez vraiment envie de consommer avant de dévaler la pente, déplacez-vous léger, c'est-à-dire emmenez pas avec vous un pochon de plusieurs grammes avec feuilles, tabac, tout ce qu'il faut, briquet, enfin, ah, c'est le meilleur moyen de vous faire avoir. Si vous emmenez votre petit pétard avec vous dans la poche, bon, même si vous êtes contrôlé, ils vont pas trouver grand-chose. Mais c'est pas très prudent. Il vaut mieux, consommer dans votre studio, votre chalet, je sais pas où, votre hôtel, sur la terrasse, dehors. Une fois que c'est fait, eh bien, vous partez faire du ski. Comme ça, déjà, vous éviterez le chien qui va vous renifler les poches, quoi. Donc faut faire gaffe. Hein, ils sont sur les dents. Alors tant que ça arrive pas, pas de souci. Mais une fois que ça arrive, c'est des vacances gâchées. Ça se finit mal, quoi. Donc voilà, prudence et responsabilité aussi, hein, parce que si effectivement vous avez envie de vous éclater et de descendre les pentes après avoir fumé, voilà, si faites gaffe aussi, parce que si effectivement vos capacités à faire du ski à toute vitesse sont plus ou moins altérées par le fait d'avoir trop fumé, voilà, donc consommer cool, hein. Et voilà, officiellement c'est pour ça qu'ils sont là, c'est aussi pour des raisons de sécurité, quoi. Officiellement, bon, en fait on sait bien que ce qu'ils veulent c'est choper du fumeur, quoi, hein. Ça on sait bien, mais voilà, c'est mieux de pas trop leur donner d'armes contre nous. Donc méfiance, méfiez-vous des tests salivaires, des amendes, des chiens, voilà, soyez prudents tout simplement, je l'ai déjà dit 4 ou 5 fois, ça suffit. Allez, un peu de musique et on revient tout de suite après pour parler du rapport de l'ONU-DC. Allez, à tout de suite.
Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, dit l'armateur, en se drapant dans son honneur. Ce bateau était dans ma famille, depuis la prise de la Bastille. Il était à peine rouillé, il pouvait encore naviguer. Croyez-vous que s'il était foutu, l'affréteur en aurait voulu? Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, dit l'affréteur, cette histoire c'est bien du malheur. Qui pouvait imaginer que ce bateau allait sombrer? Il m'avait fait bonne impression avec ses hélices en carton. Et comme il nous coûtait pas cher, il plaisait bien nos actionnaires. Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas nous, disent en colère dans leur bureau les actionnaires. Bien sûr on cherche à faire des sous en n'en dépensant pas du tout. Et ce bateau était très bien, ses rames, ses chaînes, ses galériens. S'il n'y a plus rien dans nos bas de laine, faudra voir chez le capitaine. Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, dit le capitaine, ivre mort depuis 6 semaines. Je savais pas ce que je transportais, je croyais que c'était de la soupe poulet. Quand j'ai vu qu'elle était toute noire, ça m'a semblé tellement bizarre. Aussitôt je l'ai signalé chez le ministre concerné. Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, s'écrit sinistre le ministre aux journalistes. Mes équipes ont trop de boulot, mettre un flic derrière chaque paquebot, c'est impossible. Et puis d'ailleurs, c'est pas une catastrophe majeure, mais je promets que ça n'arrivera plus si bien sûr je suis réélu. Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera? Pas nous, disent les électeurs, en faisant tourner leur moteur. Nous, ce qu'on veut, c'est du pétrole pour faire avancer nos bagnoles. Nous mettez pas tout sur le dos, on sait bien que ce sont les oiseaux. Ce sont eux qui ont salopé les plages et les roches de Vendée. Qui a coulé les Ricains? Qui est coupable? Qui est-ce qui paiera?
Les lundis à 21h sur Radio Canu.
Ne jouez pas avec la marijuana. Détention 20 ans, vente perpétuité.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Voilà, on vient de s'écouter Corbier. Et oui, c'était Corbier avec le morceau Erika. Allez, on va s'intéresser donc à ce rapport de l'ONU-DC qui est paru ces jours, il n'y a pas très longtemps. Un rapport qui, je vous cache pas que là ce que j'en lis me surprend un petit peu, mais c'est plutôt une bonne chose. Alors bon, faut pas, les rapports de l'ONU-DC, c'est pas une révolution philosophique, hein, ça c'est sûr. Mais on trouve quand même quelques éléments de texte, de langage, je sais pas, dans cet article, où on retrouve des histoires de sécurité, de droits humains. d'environnement, d'objectifs de développement durable, encore de droits humains, il faudrait pas trop stigmatiser les usagers de drogue, voilà. Bon, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Surtout dans ce genre de rapport. Alors comme je vous disais, j'ai pas spécialement envie d'y passer des heures, donc je vais m'attarder sur des passages que je trouve un peu plus intéressants. Notamment à un moment où on nous parle des politiques des drogues. Que je me trompe pas dans voilà. On nous parle de politique des drogues qui devrait évoluer pour intégrer des approches de réduction des risques en mettant l'accent sur la santé publique plutôt que sur la criminalisation. Ouais, dans un rapport de l'ONU-DC, mais c'est fantastique. C'est génial, enfin. Et ensuite, des modèles de régulation des drogues légères basés sur des preuves scientifiques pourrait permettre une gestion plus efficace des risques. L'ONU-DC insiste donc sur la nécessité de maintenir la santé publique comme priorité absolue dans le contexte de la réglementation en constante évolution du contrôle des drogues. Cela inclut un appel aux pays pour investir davantage dans la recherche, notamment en ce qui concerne l'usage médical du cannabis. C'est plutôt encourageant. Monsieur Darmanin, ce serait peut-être bien que vous lisiez ce rapport de l'ONU-DC. Ça vous changerait peut-être. En tout cas, c'est intéressant de lire ça dans les conclusions du rapport de l'ONU-DC, qui quand même, je vous le rappelle, est l'organisme des Nations Unies qui lutte contre la drogue et le crime. Voilà, donc. A priori, pas spécialement un organe parle de droits humains, de politiques publiques alternatives sur les drogues. C'est quand même pas trop leur fond de commerce en général. Après, il reste quand même des choses là que j'ai lues que je trouve assez peu intéressantes. On nous dit que le rapport souligne aussi la nécessité pour les forces de l'ordre de s'adapter aux modèles commerciaux des criminels agiles et la prolifération des drogues synthétiques. L'accent est mis sur la capacité des réponses des forces de l'ordre à suivre l'évolution rapide du marché des drogues. On lit ça à peu près à chaque fois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Que le rapport met en garde contre la prédominance des intérêts commerciaux au détriment de la santé publique. Bien que des recherches récentes sur l'utilisation des médicaments sur ordonnance suggèrent des traitements prometteurs, des régulateurs sont appelés à rester vigilants pour éviter tout préjudice à la santé publique. Et là, il y a même un petit paragraphe sur la nécessité de réguler l'usage médical du cannabis, puisque l'ONU-DC en souligne la diversité des approches pour réglementer cet usage médical du cannabis. Les régulations définissent la porosité du marché, soulèvent des questions cruciales concernant les produits autorisés, les producteurs, les conditions d'accès à la consommation de cannabis à des fins médicales. Le rapport révèle aussi que les essais cliniques impliquant des psychédéliques pour le traitement des troubles mentaux progressent à un rythme exceptionnel dans certaines régions. L'Amérique du Nord, en tant que leader de la consommation de cannabis, reflète une culture en évolution, marquée par des périodes de confinement liées à la pandémie qui ont stimulé la consommation. Et puis on lit des choses, je vous dis, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, du style « Le cannabis demeure une cause majeure des troubles liés à la drogue dans le monde, représentant une proportion significative des cas. Cependant, le rapport souligne la nécessité de différencier les approches en fonction des contextes régionaux et des spécificités culturelles. » Vous allez voir pourquoi je vous dis ça comme ça. En conclusion, le rapport sur les drogues souligne la nécessité de repenser les politiques actuelles. Formidable. En les adaptant aux évolutions rapides du paysage de la drogue, les défis persistants liés à la santé publique, à la criminalité, à l'environnement et aux droits humains nécessitent une réponse coordonnée et intégrée à l'échelle mondiale. Des solutions innovantes, guidées par les droits humains et la réduction des risques, sont cruciales pour surmonter ces effets, ces défis et réaliser les objectifs de développement durable. Et plus loin, un avenir où la régulation intelligente et la santé publique sont prioritaires, éloignant ainsi les menaces tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives encourageantes. Oui. Et alors, on s'attendrait presque à ce qu'il nous sorte à un moment qu'il faut changer de politique, qu'il faut peut-être légaliser ou au moins dépénaliser. Mais non. non, pas du tout. On vous le dit pas. Voilà, c'est vraiment l'art de tourner autour du pot et sans dire ce qu'il faut dire. Voilà, donc au lieu de nous dire le cannabis demeure une cause majeure des troubles liés à la drogue dans le monde, on devrait plutôt dire que les politiques publiques prohibitionnistes qui criminalisent les utilisateurs sont surtout eux la cause majeure des troubles liés à la drogue dans le monde. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. C'est vraiment voilà. Bon, mais comme c'est l'ONUDC, bah ils peuvent pas le dire. Encore une fois, je vous rappelle, l'ONUDC, c'est l'organisme des Nations Unies contre la drogue et le crime. Donc ils la combattent, la drogue, et ils combattent aussi le crime. Donc forcément, pour eux, c'est compliqué de dire que la prohibition marche pas, qu'il faut changer de politique. Ils peuvent pas vraiment le dire explicitement. Du coup, on se retrouve avec des formules un peu alambiquées, en fait. Pour nous sortir cette chose-là, du style un avenir où la régulation intelligente et la santé publique sont prioritaires. Oui, en fait, des politiques publiques où il y a une régulation intelligente et une santé publique qui sont prioritaires, c'est pas dans le cadre d'une politique publique prohibitionniste qui criminalise les usagers du cannabis ou des drogues, quelles qu'elles soient, en général. Donc voilà. Mais non, ça, ils peuvent pas le dire dans le rapport de l'ONUDC, c'est pas possible. Voilà. Peut-être feront-ils mieux dans 2 ans. Ou dans 5 ans, je sais pas, on verra. Allez, maintenant on va s'intéresser à une, voire même 2 études scientifiques qui sont parues et qui sont pas citées dans cet article rédigé par le CIRC, mais je n'ai pas fait le copier-coller de l'étude. Mais j'en connais un qui nous écoute, qui va aller les chercher, ces études, n'est-ce pas, cher ami? Donc cet article s'appelle « Une étude révèle que la consommation de cannabis médical n'entraîne pas de troubles cognitifs ». C'est une étude qui a été publiée dans CNS Drugs et qui a testé 40 participants sur leur capacité à effectuer des tests neurologiques portant sur la reconnaissance de motifs, la multitâche, le temps de réaction, le traitement de l'information et la mémoire de travail. Ces tests ont été réalisés avant et après que les participants se soit auto-administré, alors soit de l'huile, donc des extraits de cannabis, soit des variantes de fleurs de cannabis prescrits médicalement. Les résultats étaient plutôt encourageants. Les chercheurs n'ont trouvé aucune différence significative dans les capacités cognitives avant et après la consommation de cannabis par les participants. Ces derniers ont également rapporté que le cannabis médical était bénéfique pour diverses affections, notamment les douleurs chroniques, l'anxiété et l'insomnie. Et tous les participants sont des utilisateurs réguliers de cannabis médical, ce qui pourrait confirmer que la consommation soutenue de cannabis n'a pas de conséquences négatives graves. Et comme toujours, c'est un peu toujours ce qu'on lit quand il y a des études, c'est-à-dire que cette affirmation nécessite des recherches supplémentaires pour être confirmée. Et oui, parce que c'est, comme vous le savez, ou peut-être vous ne savez pas, mais ça reste quand même compliqué de conduire des études scientifiques sur les effets du cannabis à tout point de vue, puisque même si beaucoup de ces études sont réalisées aux États-Unis, d'un point de vue fédéral, le cannabis reste un produit interdit, une drogue classée au tableau des stupéfiants, même si les États-Unis et notamment la DEA cherchent à changer la catégorie, mais on en est quand même toujours là. Donc ça reste compliqué de faire des études et voilà. Donc bon. Mais il y en a quand même de plus en plus couramment, surtout aux États-Unis, comme je vous le dis. Il y a aussi une autre étude sur l'utilisation du cannabis chez les personnes âgées qui a été publiée alors plutôt au début de cette année 2023, donc une étude qui a un an déjà quasiment, et qui a rapporté que les utilisateurs de cannabis à long terme âgés de 50 à 84 ans avaient une meilleure fonction cognitive que des personnes du même âge qui ne consommaient pas de cannabis. Et les chercheurs ont examiné aussi plus de 10 ans de données et ont conclu que la consommation de cannabis n'avait aucun impact significatif sur les capacités mentales, ce qui est une excellente nouvelle pour les patients du cannabis médical. Donc en conclusion, les études et la recherche sur les avantages du cannabis pour la santé mentale et physique ont rendu les produits du cannabis médical au potentiel transformateur plus facilement accessibles que jamais. Les ramifications de tout ça pourraient être considérables et finalement avoir un impact sur d'innombrables vies à travers le pays et le monde. On ne peut que l'espérer. Tout comme les croyances préjudiciables et les stigmates ont rendu difficile l'obtention de prescriptions de cannabis médical, les nouvelles positives et les études peuvent aussi avoir l'effet inverse. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et comme je vous disais, là, je ne suis pas en mesure de vous citer l'étude, d'où elle vient, de quel groupe de recherche. Alors, je vous ai cité... que l'étude avait été publiée dans CNS Drugs, mais voilà. Donc si vous pouvez retrouver ces informations ainsi que toutes les informations dont je vous parle ce soir, vous pouvez vous rendre sur le site internet du cirque-asso.org. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook du Cirque ou du Cirque Lyon. Sur ces deux pages Facebook, vous allez retrouver l'ensemble des informations dont je vous parle ce soir ainsi que tous les lundis soirs pour Cannabis Cirque, dans Cannabis Circus. Vous retrouverez aussi des articles venant de Newsweed, du Cannabiste parfois aussi, et donc des articles qui sont également mis en page, effectués, réalisés, voilà, tout fait par l'équipe du Cirque que nous saluons encore une fois ce soir comme d'habitude, puisque ce n'est pas que moi tout seul qui fait Cannabis Circus, il y a toute une équipe derrière, tout un tas de petites mains volontaires qui travaillent pour vous sortir du contenu. Et on remercie tout le monde. L'efficacité se maintient sur le long terme au niveau de l'expérimentation du cannabis médical. Voilà ce que nous dit en titre le quotidien du pharmacien. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la ANSM, dresse le bilan des deux premières années d'expérimentation du cannabis médical, donc du 26 mars 2021 au 27 mars 2023. Et elle confirme l'efficacité du traitement et souligne la bonne prise en main de la dispensation par les pharmaciens. Donc deux années qui montrent cette efficacité du cannabis dans toutes les indications testé avec un maintien de cette efficacité dans le temps pour un certain nombre de patients traités. Voilà ce que déclare le comité de scientifique temporaire de la NSM qui est dédié au suivi de l'expérimentation du cannabis à usage médical. Si les résultats de l'évaluation de la première année étaient encourageants pour certains profils patients, la NSM juge que le volume de la cohorte de patients et la durée de suivi n'était pas assez important pour interpréter les résultats. Parce que oui, c'est vrai, en France, on est persuadé qu'il n'y a que nous qui pouvons mettre en place une expérimentation et que les résultats, il n'y a que chez nous qu'il faut vraiment les suivre. Alors qu'en fait, il y a quand même plein de pays dans le monde où ils ont déjà fait toutes ces expérimentations. Mais nous, on veut faire la nôtre, parce que la nôtre, elle sera mieux que les autres. Voilà, c'est un peu navrant, il faut faire ça, mais c'est aussi une manière de perdre du temps, hein, quand même, il faut quand même le rappeler, il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait déjà, et que cette expérimentation ne va faire que confirmer, elle ne va rien apporter de bien plus, en fait. Mais voilà, il faut la faire, et voilà, je joue le jeu, je continue. Toutefois, l'actualisation sur une période de plus longue de deux années donc permet de confirmer ces résultats. Ainsi, l'amélioration, je cite, hein, l'amélioration de l'état de santé des patients et des symptômes associés s'observe dès trois mois de suivi. Le point nouveau est que ces résultats se maintiennent dans le temps et ce jusqu'à 18 mois pour certaines indications quand le volume de patients est suffisant, nous précise-t-on. Voilà donc ce qu'affirme le comité scientifique temporaire. Concernant les traitements, 83 des patients ont reçu une prescription d'huile orale de CBD dominant. Le CST note que la grande diversité de dosages observés au sein de la population inclus soutient un besoin de prescription individualisée pour chaque patient. Au total, 2486 patients ont été inclus jusqu'au 27 mars 2023. 54% l'ont été dans l'indication douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles. 12% dans la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. 12% en situation palliative. 10% pour certaines formes d'épilepsie pharmacorésistante, 8% pour des symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et aux traitements anticancéreux, et 4% dans la spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central. 852 sujets ont quitté l'expérimentation avec comme motif d'arrêt l'inefficacité du traitement dans 36% des cas, les effets indésirables dans 32% et les décès non liés à la prise du traitement dans 17%. En particulier dans l'indication des situations palliatives. Du côté des professionnels de la santé, l'ANSM note que les prescriptions en ville par les généralistes principalement restent peu développées, mais elles ont légèrement augmenté entre la première et la deuxième année d'évaluation. Par ailleurs, peu de délivrance à l'officine nécessite de contacter le prescripteur, ce qui souligne la bonne prise en main de la dispensation par les pharmaciens, et la majorité des dispensations restent toutefois en PUI, ce qui veut dire en hôpitaux en fait. Voilà, donc c'est 80%, donc effectivement il y a assez peu de délivrance des traitements ailleurs, en dehors de l'hôpital ou de structures para-hospitalières, on peut dire. Voilà, c'est, il y a encore beaucoup de boulot à faire auprès des la médecine de ville, des pharmaciens, enfin d'un certain nombre de pharmaciens quand même. Voilà, ça prend du temps. C'est sûr. Voilà. Allez, on va s'écouter un peu de musique et on continue juste après pour terminer l'émission. On ira au Parlement européen. Allez, un peu de musique. C'est parti. Allez, à tout de suite.
A maquer l'instrument qui se sonne la crabe, vous en soi un aire traditionnel marseillais.
Carrière ou débat tactique, nous allons faire tous les deux. Quand la boulette est petite, faut-il faire un joint ou deux? Faut-il tout fumer de suite ou regarder un petit peu? Répondez-moi, je le veux.
Moussu, tu tombes à pique, ce sujet je connais bien. J'ai tant d'années de pratique que mon choix sera certain. Moi, je fais un micro-stick et le reste dans un coin. Je le garde pour demain.
Carrière ou c'est vraiment grave, je te reconnais bien là. Ta tactique est super naze, car on n'est jamais fracas. Mets-toi donc à la Gauloise et cours aussitôt au tabac. Ils n'attendent plus que toi.
Moussuté, comment tu parles? Moi je suis resté poli.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Quand il n'aura plus que dalle, qui viendra faire le joli? Qui partira en cavale au beau milieu de la nuit pour un choco de cambouis?
Carrière ou mets la ceinture, car j'élève le débat. Même si pour toi c'est dur, quand on aime on compte pas. Et dans l'Afrique en friture, il n'existe qu'une loi. Fumer ne calcule pas.
Moussuté, si on t'écoute, on est dans un beau merdier. On est des mamés sans doute, mais un seul jour par année. Si on te suit, on est moute, même en début de soirée. À 8h on est couché.
Ça me prend la tête, je vais te dire franco.
Dis-moi.
Je vais me rouler un pet et j'y mettrai tout le morceau. Et sur une autre planète, je partirai aussitôt, loin de tes plans de colo.
Moussuté, allez, dégage, tu m'as gonflé le testo.
Ah, tu parles mal,
et si j'étais pas si brave, ça finirait en baston.
Allez, la violence, allez, vas-y.
De parole, tu te caves, mais c'est moi qui ai le chichon. Tu vas rester comme un con.
Crois-le, hein.
Hop, la bande de mastre. Il faut arrêter les frères. V1 Dieu de Jovastre. Vous allez nous faire manquer. Donnez-moi cette boulette. Et deux feuilles de rizla. Un morceau de cigarette. Et ça ira comme ça.
Thank you. venu de si loin, d'où la mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie, même veste et même chien.
Ah, désolé, la musique est allée au-delà de... au-delà, j'étais en train de discuter avec un visiteur de la radio. Allez, on continue, désolé pour ce petit loupé. Alors, où en étais-je? Ah voilà, je vous parlais de Grèce. Je vous parlais de Grèce avec ce député européen Stelios Kouloglou qui, le 5 décembre dernier, a interpellé le Conseil de l'Europe pour remédier à cette situation assez fofolle en Grèce, puisque en Grèce, quand même, depuis 2018, il y a une loi qui a autorisé la culture de produits à base de cannabis avec une teneur de THC de plus de 0,3%. Mais par contre, la production nationale très lente à se mettre en place, et le gouvernement grec a aussi imposé une interdiction d'importation de produits du cannabis violant selon les sources locales, les principes fondamentaux de l'Union européenne en vertu de l'article 28 du traité de l'Union européenne sur la libre circulation des biens entre les États membres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se met en place très 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 lentement. Du coup, il y a pas mal de personnes qui ont besoin de cannabis médical et qui sont tout simplement obligées de se mettre hors la loi pour se procurer du chanvre, hein, on sait bien ce que c'est. Jacqueline Poitras, qui est fondatrice du groupe de défense des patients grecs Mamaka, a aussi appelé l'Union européenne à remédier à l'inégalité d'accès. Elle a souligné que l'inégalité entre les États membres en ce qui concerne la législation sur le cannabis médical viole les droits des patients dans l'Union européenne, ce qui est tout à fait juste. Et malgré 6 ans d'utilisation légale en Grèce, peu de patients ont accès à des produits légaux. Voilà. Alors, en janvier dernier, quand même, Tikkun Olam Europe, qui est une filiale de l'entreprise israélienne Tikkun Olam, a annoncé le début des opérations de la première usine de production de cannabis médical en Grèce. Mais les premiers produits à base de fleurs étaient prévus pour la fin 2023, mais leur disponibilité est maintenant reportée à plus tard en 2024. Et même si en 2024, ça fonctionne, la production va pas être suffisante pour pouvoir en fournir à toutes les personnes qui en auraient besoin en Grèce. Donc la situation n'est pas près de s'améliorer, ou en tout cas elle va s'améliorer, mais lentement, très lentement. Et pour finir, on peut dire que voilà, il faut que la Commission européenne prenne des mesures pour remédier à l'inégalité dans l'accès au cannabis médical dans l'Union européenne. Ça nécessite la mise en place d'un cadre législatif cohérent et uniforme pour garantir un accès légal, sûr et équitable aux produits médicinaux à base de cannabis pour les patients dans tous les États membres. Et on ne peut que souhaiter cela, ce qui serait à terme bénéfique aussi pour nous en France, pour les personnes qui en ont besoin. Parce que peut-être que la Grèce fait pas ce qu'il faut, mais... il y a un pays qui fait pas ce qu'il faut, et on sait très bien lequel c'est, et c'est ici, hein, c'est en France. Hein. Si l'Europe pouvait vraiment s'emparer de la question et faire avancer les choses, ça serait vraiment, vraiment positif pour beaucoup de monde. Voilà. Ensuite, deux articles qui parlent un peu de la même chose. D'abord, un article du Cirque intitulé « À l'aube d'une évolution ou d'une révolution du cannabis à usage adulte en Europe ». On nous parle aussi dans cet article de l'explosion du cannabis aux États-Unis, un géant de 17 milliards de dollars, avec une année écoulée marquée par une croissance spectaculaire du marché du cannabis à usage adulte aux États-Unis, qui est désormais actif dans 24 États, suite à l'ajout récent, on en a parlé la semaine dernière, de l'Ohio. Un chiffre colossal, donc, de 17 milliards de dollars qui a propulsé ce secteur dans une nouvelle ère, et selon les prévisions de Prohibition Partners, les ventes totales de cannabis aux États-Unis, incluant le secteur médical, devraient dépasser les 33 milliards de dollars cette année. Pendant ce temps, le Canada approche des 6 milliards de dollars de ventes à usage adulte. L'Europe en pleine métamorphose. Avec la Suisse qui a mis en place une expérimentation qui a commencé il y a très très peu de temps, les Pays-Bas où un modèle, la mise en place d'un système de cannabis légal a commencé vendredi. Voilà, ça a commencé vendredi dernier, donc c'est en train de se mettre en place. Et bien sûr à Malte, on en a déjà parlé à plusieurs reprises avec ces cannabis clubs. Et une des autorisations qui ont été délivrées à d'autres clubs récemment, l'Allemagne qui également est sur la voie de la mise en place d'une nouvelle loi avec le projet de loi CANG. Et donc les Pays-Bas, comme je vous le disais, ou les coffee shops de Breda et de Tilburg qui peuvent désormais légalement s'approvisionner en cannabis auprès des producteurs nationaux agréés, marquant une étape importante pour une chaîne d'approvisionnement conforme de la semence à la vente en Europe. La Suisse, je vous en ai parlé. Et donc cet article aussi de francetv.info qui nous parle plus ou moins des mêmes choses. Avec des termes qu'on ne connaissait pas, la situation, on nous parle de la situation paradoxale d'un commerce semi-légal aux Pays-Bas, hein, qui repose uniquement sur une politique de tolérance que les Batavs ont surnommée la porte dérobée, la zone grise. Et oui, parce qu'on a le droit de vendre du cannabis aux consommateurs, mais en théorie, l'achat auprès de fournisseurs est interdit. Ah, non, c'est comme ça. Mais à partir du 15 décembre dernier, donc comme je vous le disais, vendredi dernier, eh bien tout change puisque les Pays-Bas ont entamé l'expérimentation de la vente légale de cannabis. Depuis vendredi matin, l'expérience a commencé à Breda, Tilburg, deux villes du Brabant septentrional, province du sud des Pays-Bas. Une deuxième phase devrait être enclenchée dans les mois qui viennent pour être en expérimentation. Une dizaine de villes dont Nijmegen, Maastricht ou même Amsterdam. Et cette phase d'expérimentation devrait durer 4 ans. Et l'ambition est à terme de pouvoir proposer ce cannabis légal pour l'ensemble des quelques 573 coffee shops que comptent les Pays-Bas. La loi a été votée en 2019, mais il a fallu du temps pour lancer cette expérimentation, car la culture et le commerce de ce cannabis légal sont très encadrés. Les Pays-Bas ont déjà limité le droit d'acheter du cannabis aux citoyens néerlandais et aux détenteurs d'un permis de séjour, et l'espoir est que le cannabis légal amène à la disparition des circuits illégaux de distribution. Au Canada, la vente de marijuana récréative est légale depuis 2018, mais les quelques 900 producteurs ne nagent pas forcément dans le bonheur avec quelques 30 milliards d'euros injectés dans l'économie canadienne depuis la légalisation. On pourrait penser que l'industrie du cannabis constitue un véritable Eldorado. Pourtant, depuis quelques temps, rien ne va plus. Les entreprises cotées en bourse revoient leurs investissements à la baisse. Canopy Growth, un des fleurons du secteur, a dû se départir. A dû se départir de son siège social en Ontario. Et Canopy Growth, en Ontario, je l'ai dit, et Aurora Cannabis, donc l'autre grand acteur canadien, produit maintenant aussi des orchidées en plus du cannabis pour équilibrer ses comptes. Les investisseurs ont certainement eu les yeux plus gros que le ventre, hein, c'est pas peut-être, mais c'est certain, ils ont inondé le marché avec leurs produits. Forcément le prix a baissé, sauf que les coûts de revient restent eux très élevés. En fait, seulement 20% des quelques 900 producteurs réaliseraient des profits actuellement. Face à une telle crise, les associations de producteurs se tournent vers le gouvernement. Elles réclament une baisse des taxes fixes imposées sur chaque gramme vendu. Et surtout, l'industrie légale voudrait que les autorités s'attaquent davantage au marché criminel, puisque 40% des ventes se font toujours sur le marché noir. Alors, ça veut dire que 60% se font sur le marché officiel, ce qui est déjà un progrès énorme en seulement 5 ans. Hein. Faut bien se rendre compte que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. Donc déjà, si on est déjà à 60% de ventes qui se font de manière officielle et légale, mais j'ai presque envie de dire que c'est gagné, ou en tout cas c'est quasiment gagné, quoi. En France, il y a aussi du commerce illégal de tabac, de cigarettes, alors que il y a des bureaux de tabac. Alors, je connais pas le pourcentage. On n'est peut-être pas à 60-40, mais on n'est pas beaucoup mieux, hein. Pas énormément mieux. Voilà, donc 60-40, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire, mais c'est déjà pas mal. La Thaïlande ensuite, où le cannabis a été retiré de la liste des narcotiques en juillet 2022. Les fleurs sont en vente libre, mais une partie de la société civile, nous dit-on, fait pression pour revenir en arrière. Certains médecins, alors c'est toujours un peu pareil, hein, dès qu'il y a des avancées, certains médecins accusent désormais la dépénalisation d'être à l'origine d'une recrudescence d'accidents de la route et de causer des dommages aux adolescents thaïlandais, notamment dans les provinces les plus pauvres dans le nord-est du pays. Il y a un projet de loi qui est à l'étude, on en a déjà parlé aussi à cette antenne. Voilà, on veut pas non plus recriminaliser le cannabis, mais plutôt d'en restreindre l'usage officiellement uniquement à des fins médicales. Et la vente des fleurs de cannabis serait donc bientôt interdite et une nouvelle version de la loi donc pourrait imposer la présence d'un médecin sur les lieux de vente. Mais par contre, un retour en arrière total ne paraît pas possible non plus, notamment dans les zones touristiques, bah puisque ça rapporte beaucoup beaucoup d'argent, près d'un milliard d'euros par an. Voilà. Allez, on est près de la fin. On va parler donc de l'Argentine. L'Argentine qui a voté il y a 15 jours pour un nouveau président, un type pour le moins original, voire même carrément taxé de locaux, hein, de fous. Javier Milei, hein, vous savez, c'est ce gars qui a fait pression, qui a fait campagne ces 6 derniers mois avant les élections avec une qui se pointait en public avec ses admirateurs et qui se pointait dans la rue durant sa campagne avec une tronçonneuse, voilà, pour qui était un peu l'emblème de sa campagne, où il disait qu'il allait tronçonner les services publics, supprimer des ministères, il voulait même dollariser la monnaie, se séparer du peso. Bref, un type pour le moins original, voire carrément un peu foudingue, hein, il faut quand même bien reconnaître. Voilà, mais bon, il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place en Argentine pour légaliser, et il se trouve que ben les choses avancent. Voilà, alors, c'est pas forcément du fait de l'arrivée de Javier Milei, même s'il a dit publiquement qu'il était favorable à la légalisation du cannabis. Alors qu'est-ce qui change ? Eh bien, ce qui change depuis donc très très peu de temps, donc depuis que la loi 27669 a été votée il y a quelques temps, donc qui établit un cadre réglementaire de l'industrie nationale du cannabis médical et du chanvre. Donc il y a 6 entreprises qui ont reçu des licences pionnières. Et donc ces 6 entreprises pionnières, voilà, je vais y arriver, sont Agrogenética Riojana et Biofabrica Misiones de la Rioja, Inquilay de Tucumán, Whale Leaf de Chubut et Botanicans et Pampa Hemp de Buenos Aires. Voilà, Francisco Echaran, président d'Aricam, qui en a exprimé sa satisfaction. Donc l'Aricam, c'est quoi ? C'est l'agence de régulation argentine du cannabis. Voilà, Francisco Echaran a exprimé sa satisfaction et en soulignant que ces licences marquent le début d'une nouvelle ère pour l'industrie nationale, conformément aux dispositions donc de la nouvelle loi. L'Argentine croit au potentiel économique de l'industrie du cannabis médical et du chanvre industriel. Les chiffres officiels indiquent que le secteur pourrait générer jusqu'à 10 000 emplois enregistrés au cours des 3 prochaines années, avec un marché intérieur estimé à 500 millions de dollars. Les experts s'enthousiasment également de la possibilité d'exportation supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard d'euros. Pablo Fazio, président de la Chambre argentine du cannabis, considère ces développements comme un triomphe historique et pense que ce n'est que le point de départ pour l'industrie argentine du cannabis. Voilà, donc on va suivre ça avec attention. Pas grand chose de plus à vous dire. On en reparlera certainement dans les prochaines semaines. Voilà, en tout cas, l'Argentine qui s'y met aussi, et nous qui prenons encore une fois du retard, comme d'habitude. Voilà, donc si ça vous intéresse, que vous voulez lire cet article en entier, eh bien vous pouvez le retrouver sur newsweed.fr. L'Argentine accorde 6 premières licences pour la production et la vente du cannabis médical. Vous pouvez retrouver également cet article sur la page Facebook du Cirque Lyon. Voilà. Et donc pour terminer, il nous reste que 3 minutes pour savoir comment conserver et évaluer la qualité de votre cannabis au fil du temps. Et oui, parce que le cannabis, la qualité du cannabis se dégrade au fil du temps. Alors, il y a moyen de mieux conserver votre cannabis, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que si vous le conservez s'il est exposé directement à la lumière solaire, à l'air libre, voilà. Donc en quelques mois, vous n'allez pas retrouver grand chose d'intéressant dans votre cannabis. Voilà, donc ça dépend vraiment de la qualité aussi du séchage et du stockage. Et voilà, en général, bien séché et stocké de manière appropriée dans un récipient hermétique à l'abri de la lumière directe du soleil. Il peut rester bon pendant jusqu'à un an, voire 18 mois. Voilà. Mais si vous le conservez pas dans des bonnes conditions, il ne va plus rester grand-chose. Voilà. Alors, la plupart des recherches indiquent que la fleur de cannabis commencera à perdre de sa puissance après seulement 6 mois. Tout moment passé dans votre tiroir, s'il est dans votre tiroir, continuera de contribuer à la perte de la puissance de votre cannabis. C'est dû au fait que le THC, le constituant psychoactif clé de la plante, enfin, en tout cas l'un de ceux-là, commence à s'oxyder en cannabinol au fil du temps. Ça a été souligné dans une étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, donc une étude de l'ONUDC, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été faite il y a plus de 20 ans, en 99. Et d'après les résultats des gens de l'ONUDC, la concentration en THC dans le cannabis diminue d'environ 16% après un an, 26% après deux ans, 34% après trois ans et 41% après quatre ans, même si le THC n'est pas le seul ingrédient de valeur dans le cannabis. Que dire des autres cannabinoïdes et des terpènes? Bah, c'est plus ou moins la même chose, hein. Il semble que le temps ne soit pas clément pour aucun des ingrédients du cannabis, sauf peut-être pour le CBN, nous dit-on, qui serait un cannabinoïde qui se conserverait un peu mieux. Mais ceux qui sont les cannabinoïdes sont des composés qui sont instables et vulnérables à la dégradation au fil du temps, surtout lorsqu'ils sont exposés à la lumière, comme je vous le disais, ou à la chaleur, ou à l'air, enfin tout à la fois, c'est encore pire en fait. C'est pareil pour les terpènes, les éléments extérieurs accélérant leur dégradation, entraînant une diminution de la qualité générale de la saveur et des effets du cannabis. Mais d'un point de vue technique, cela ne signifie pas que votre herbe est périmée. Ça signifie simplement qu'elle ne sera pas aussi efficace qu'avant. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte aussi. Les moisissures, par exemple. Voilà. Bah, les moisissures, c'est pas top. Si vous avez du cannabis moisi, évitez de le consommer. Ça peut provoquer des problèmes au niveau des poumons, par exemple. Vous pouvez absorber, même en le fumant, des spores, en fait, qui peuvent poser des problèmes respiratoires à terme. Donc, faites attention. Si votre air, par exemple, a été exposé à l'humidité ou même encore mieux stocké dans un récipient très humide et elle se dégrade, donc c'est pas une bonne idée. Voilà, donc comment, en fait, la question c'est comment stocker votre cannabis de manière efficace. Donc il faut qu'il soit stocké dans un récipient frais, sec et hermétique. Donc pour ça, le mieux c'est d'éviter en fait tout ce qui est contenant plastique, donc sachet en plastique, boîte en plastique. C'est pas top pour conserver vos produits. C'est vraiment pas une super idée. Même tout ce qui est Tupperware, tout ça. Voilà. Le mieux, c'est des pots en verre, en fait. Voilà. Des pots en verre qui peuvent se fermer hermétiquement avec un joint en caoutchouc, par exemple. Ça se trouve partout, hein. Vous pourrez trouver ça dans des magasins bio, dans des grandes surfaces. Voilà. C'est le meilleur contenant. Voilà, honnêtement, il n'y a pas mieux. Les boîtes en fer sont pas mal non plus. Voilà. Vous pouvez également, si ça vous intéresse, stocker vos plantes au congélateur. Alors là, dans des sachets en plastique, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, au frais, voire au très frais, même au congélateur. Il y en a qui le font, c'est pas mal, mais bon. Au bout d'un moment, faut pas rêver. Hein. Ça n'a pas une durée de vie indéfinie. Et voilà, comme je vous le disais, mois après mois, après année après année, les cannabinoïdes se dégradent et perdent de leur efficacité. Voilà. Au niveau humidité, le pourcentage idéal, c'est entre 55 et 63% d'humidité. Bocal en verre, comme je vous le disais. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Cannabis Circus, ben c'est fini pour ce soir. On se retrouve. On se retrouve peut-être pas lundi prochain. Tu viens toi lundi prochain
J'hésite. Lundi prochain, je sais pas. Mais le premier, c'est sûr.
D'accord. Donc voilà, lundi prochain sera le 25 décembre et pas sûr d'être là. Cannabis Circus, pas sûr d'être là et Chasseur de Son, pas sûr d'être là non plus quoi. Voilà. Allez. Eh bien, à bientôt, à très bientôt, pour un nouveau Cannabis Circus. Maintenant, c'est Chasseur de Son. Allez, bonne soirée, au revoir.